Vous écoutez On lit pour vous.
Qui sont les seconds sons, le groupe à l'origine de la manifestation raciste à Shawinigan? Un texte de Léo Mercier-Ross, paru le 1er juin 2026 dans Le Devoir. Portant des foulards blancs et des lunettes de soleil pour masquer leur identité, une vingtaine de personnes se sont rassemblées à Shawinigan samedi pour brandir une banderole indiquant « Je me souviens d'un Québec blanc » pendant une quinzaine de minutes. Qui sont les individus à l'origine de cette manifestation raciste et quel était leur objectif? Après plusieurs heures d'incertitude, des images de l'événement circulaient sur le web depuis au moins dimanche, le 31 mai 2026. L'identité des organisateurs de l'événement a été confirmée le lendemain. Des membres de la branche québécoise de Second Son Canada étaient à l'origine de la manifestation, acclamé le fondateur du groupuscule, Jérémy McKenzie, sur le réseau social X. Le groupe se présente comme un club nationaliste masculin canadien consacré à la santé et au bien-être, à la camaraderie, à l'activisme et au soutien amical pour ceux qui partagent ces valeurs. Ces dites valeurs ne sont toutefois pas clairement énumérées par le groupe. Et aux yeux de Mathieu Collin, professeur associé à l'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke, ce n'est pas un hasard. On sait très bien que ces groupes-là sont liés à des gens qui sont ouvertement néo-nazis ou qui sont des suprémacistes blancs qui ont un discours extrêmement provocateur, raciste et antisémite, soutient le spécialiste des questions extrémistes. Mais que ce soit dans ce genre de manifestation-là ou dans les communications officielles, ce n'est pas ce genre de message qui est mis de l'avant. M. Collin évoque ainsi une stratégie de se présenter sous un jour respectable et surtout de s'unir autour de thématiques liées à l'identité et à l'immigration. C'est dans un deuxième temps que le message extrêmement violent va être diffusé, détaille-t-il. Les réseaux sociaux personnels de figures clés du groupe sont alors utilisés comme canaux de communication privilégiés. Second Son Canada ne fait pas exception à la règle. Plusieurs fiers membres du groupuscule partagent des points de vue extrémistes sur leurs réseaux sociaux. C'est notamment le cas du chef de la division québécoise de Second Son Canada, Swan Beauvais-MacDonald, qui a notamment publié plusieurs fois des éloges à Hitler sur X et Telegram. En clair, des groupes comme Second Son Canada ne se présentent pas directement comme étant extrémistes, mais ne cachent pas non plus leur nature bien loin à qui voudrait la connaître. Dans leur sortie publique, ils vont ainsi flirter sans cesse avec les limites, note M. Collin en citant l'exemple de cette banderole appelant à un Québec blanc. Jada Hassan, directrice du Réseau des praticiens canadiens pour la prévention de l'extrémisme violent, soutient que c'est notamment pour se faire connaître et ainsi réaliser une opération de recrutement que des groupes comme Second Son Canada organisent de tels rassemblements. L'objectif de la visibilité, c'est à peu près trois choses. Se faire connaître, légitimiser le discours polarisé dans la sphère publique et attirer de nouveaux membres qui ne connaissaient pas leur existence. Aux yeux de Mme Hassan, la courte durée de la démonstration de samedi, tout au plus une quinzaine de minutes, laisse penser qu'ils espéraient être captés par les caméras de passants ou de journalistes. Ils utilisent la haine ou les commentaires qu'ils reçoivent pour promouvoir leur cause, explique celle qui est également professeure au département de psychologie de l'Université du Québec à Montréal. Un Active Club canadien. Second Son Canada est associé au mouvement américain des Active Clubs. Ces derniers utilisent le sport comme manière de recruter et de se déplacer du virtuel au réel, indique Mathieu Collin. La pratique du sport, c'est à des fins premièrement idéologiques. On se prépare parfois dans des perspectives accélérationnistes à une guerre civile, raciale, etc. Et puis, l'autre dimension de ça, c'est aussi de pouvoir attirer par la pratique physique et de mettre en avant cette idée, justement, de camaraderie, d'identité masculine, d'identité canadienne, etc. Les Active Clubs misent aussi sur la création de cellules capables de mobiliser localement et de créer du tissu social. Segonçon Canada affirme d'ailleurs avoir plusieurs divisions à travers le pays, notamment au Québec. La branche québécoise est aussi connue sous le nom de Frontenac Active Club. Segonçon Canada entretient aussi des liens transnationaux avec des Active Clubs au sud de la frontière, notamment lors de rencontres qu'il qualifie d'entraînement. Le Canada n'est pas un vase clos, soutient M. Collet. Difficile de déterminer qui est visé par le recrutement, comme il n'y a pas de profil type, précise le professeur. On parle d'un processus de radicalisation, c'est-à-dire que ce genre de message-là peut atteindre des gens qui sont déjà radicaux ou radicalisés et qui partagent déjà, en fait, la sympathie par rapport aux thèmes qui sont dégagés par ces groupes-là, ou bien des gens qui sont attirés par l'aspect sportif, se sentent marginalisés ou qui ont des sentiments d'isolement, de détresse personnelle, etc. Pour Jeda Hassan, les réseaux sociaux et le contexte politique ou les politiques identitaires sont de plus en plus au premier plan, contribuent à cette propagation de groupuscules penchant vers l'extrémisme. C'était « Qui sont les Segonçons », le groupe à l'origine de la manifestation raciste à Shawinigan. Un texte de Léo Mercier-Ross, paru le 1er juin 2026 dans Le Devoir.
Savoir dire non au Glencore de ce monde. Un texte de Yvan Tounchourian et Jérôme Gosselin, TAP. Les deux sont professeurs et membres de l'Institut d'éthique appliquée. Texte publié dans Le Devoir du 4 mai. La fonderie Horn est revenue dans l'actualité ces dernières semaines. Plus d'une centaine de médecins de la région de l'Abitibi-Témiscamingue demandant à la nouvelle première ministre du Québec, Christine Fréchette, de renoncer aux assouplissements consentis par François Legault. Sa société mère, Glencore, avait fait savoir début février qu'elle allait suspendre ses investissements pour réduire les émissions polluantes si elle n'obtenait pas une entente avec le gouvernement du Québec. Elle n'a pas hésité à menacer de fermer le site de Rouyn-Noranda quelques jours auparavant. En 2023, la fonderie avait déjà obtenu une autorisation ministérielle de continuer de polluer au-delà du seuil fixé par la réglementation environnementale de 3 nanogrammes par mètre cube. Elle devait également travailler sur un plan d'action afin d'atteindre la cible des 15 nanogrammes par mètre cube en 2027. Cédant à la pression, à la fin mars, le gouvernement Legault avait repoussé l'exigence d'atteindre cette cible à 2030, en plus de prolonger l'autorisation ministérielle jusqu'à 2033. La position dans laquelle se trouve la population de Rouyn-Noranda n'a rien de simple ni d'anecdotique. Il s'agit en fait d'une illustration parfaite des déchirements et des iniquités qui accompagnent l'application des réglementations environnementales. Bien que nécessaires, les interventions étatiques placent forcément ceux qui sont déjà victimes d'injustices environnementales, parenthèse, par une exposition accrue à des polluants, fin de parenthèse, dans une situation de précarité économique, parenthèse, compte tenu de la dépendance régionale à des industries polluantes, fin de parenthèse. Dans ce contexte, la stratégie de Glencore s'apparente à un chantage inique. Jouant sur la peur et la vulnérabilité de la ville de Rouyn-Noranda et des ouvriers de la fonderie, la multinationale use du pouvoir quasi-féodal que détiennent les grandes entreprises vis-à-vis des États en pratiquant le chantage à la délocalisation. Comme tant d'autres, Glencore se sert de son rapport de force pour imposer sa volonté. Qu'on ne s'y trompe pas, elle arrive à imposer sa vision du monde. Elle a obtenu l'attention du gouvernement, qui s'est empressé de réagir. Elle a obtenu le droit de continuer de polluer. Elle a obtenu de ne pas investir de l'argent pour moderniser ses installations afin d'atteindre une cible 5 fois plus élevée. À ces gains immédiats s'ajoutent certains plus anciens, la création d'une zone tampon à laquelle participe financièrement le gouvernement, l'octroi régulier de subventions gouvernementales et de la ville, le non-respect du seuil de 3 nanogrammes par mètre cube imposé par la loi. Et ajoutons qu'à ce jour, les concessions de Glencore sont minimes. On ne doit alors pas s'étonner du déchirement et du sentiment d'impuissance qui afflige la population de Rouyn-Noranda, qui doit finalement choisir entre la peste et le choléra. Dans son communiqué du 5 février dernier, le gouvernement du Québec appelait la ville de Rouyn-Noranda, guillemets, comme gouvernement de proximité, fin des guillemets, à, citation, se prononcer sur l'acceptabilité sociale, fin de citation, d'une prolongation du seuil intermédiaire d'émission. Quelques jours plus tard, le conseil municipal s'est rangé en faveur de la proposition du gouvernement, accordant, guillemets, 7 années de prévisibilité réglementaire, fin des guillemets. Or, cette décision, prise à huis clos, est décriée par plusieurs citoyens. Dans les circonstances, peut-on raisonnablement parler d'un quelconque compromis socialement acceptable? La situation met en lumière, bien au contraire, le flou artistique entourant l'acceptabilité sociale dans les débats publics québécois. Même si elle est systématiquement présentée comme une norme décisionnelle, aucun seuil clair ne peut être établi tant par le gouvernement que par la littérature scientifique. En lui demandant de se prononcer sur l'acceptabilité sociale de sa mesure, le gouvernement du Québec n'a fait rien d'autre que de lancer le conseil municipal dans une quête sans issue. Comme le soulignait avec raison l'équipe des communications de la municipalité, citation, comment la ville pouvait-elle de façon sérieuse mesurer l'acceptabilité sociale de la proposition qu'il avait mise sur la table? Fin de citation. En effet, qui sont des et comment? Quel poids accorder à chaque catégorie de personnes concernées? Mais surtout, quel niveau d'adhésion visé? Toutes ces ondes d'ombre laissent l'évaluation de l'acceptabilité sociale à la pleine discrétion de certains acteurs et maintiennent inchangés les rapports de force qui traversent les communautés. Dans ce genre de dossier, au lieu de tenter de mesurer l'acceptabilité sociale, il faut plutôt chercher à corriger ces rapports de force problématiques. Cela requiert la création de contre-pouvoirs, mais aussi l'aménagement d'un espace institutionnel où peuvent véritablement s'exprimer les résistances à l'égard de mesures aussi controversées. Il faut aussi trouver des solutions concrètes aux préoccupations, par ailleurs légitimes, des travailleurs de l'entreprise. Dans son mémoire déposé en 2022, Émilie Lessard-Terrien appelait à la fin de la complaisance envers Glencore, mais surtout, citation, à la prise en main collective de notre devenir. Fin de citation. Dans son livre vert sur l'acceptabilité sociale, le gouvernement du Québec rappelait qu'un processus de consultation doit, citation, se traduire par le refus d'une communauté. Fin de citation. À cet égard, l'ancienne députée de Québec solidaire de Rouyn-Noranda Témiscamingue a raison. Pour qu'une telle possibilité soit effective, il faut se donner collectivement les leviers et les ressources pour pouvoir dire non aux multinationales comme Glencore. Fin de ce texte titré « Savoir dire non aux Glencore de ce monde », signé Yvan Chou-Tourian et Jérôme Gosselin-Tap, publié dans Le Devoir du 4 mai 2026, sous le titre « De la suite dans les idées, dire non ». Aux puissants.
Une vision claire pour le parc Jarry. Un texte de Philippe Mercure paru le 7 juin 2026 dans La Presse. Au moment où les résidents reprennent d'assaut les espaces verts un peu partout au Québec, avec l'arrivée des beaux jours, les ambitions d'agrandissement de Tennis Canada au parc Jarry se heurtent à la volonté des riverains de protéger la quiétude de leur havre de paix. Face à ces deux visions divergentes, mais légitimes, la ville se retrouve pressée d'établir un plan de match clair. D'un côté, il y a Tennis Canada et son événement annuel, l'Omnium Banque nationale. Un tournoi bien ancré dans le calendrier estival montréalais et qui plaît aux Québécois. Un événement qui grandit et qui a besoin d'espace. De l'autre, des résidents qui assurent n'avoir rien contre le tennis, mais qui sont inquiets de voir le parc Jarry, qu'ils aiment, se faire gruger par les besoins du tournoi et qui se demandent jusqu'où ça ira. Depuis un certain temps déjà, les tensions sont palpables entre les organisateurs du tournoi et certains citoyens du quartier. Entre les deux se trouve la ville de Montréal. Je ne dis pas que son rôle est facile, mais elle doit nous annoncer une vision claire pour le parc Jarry qui fait défaut pour l'instant. Parce que le compromis atteindra bientôt ses limites et qu'on ne pourra pas ménager indéfiniment la chèvre et le chou. Si je vous parle de cette histoire, c'est qu'elle montre combien les espaces verts urbains sont précieux et convoités, et qu'elle soulève des questions quant à savoir à qui doivent profiter les parcs publics. Avertissement. Je ne vous dépeindrai pas ici l'affaire entre bons et méchants. De part et d'autre, j'ai eu l'impression d'avoir affaire à des gens raisonnables qui évitent les déclarations incendiaires. Mais leurs intérêts divergent et ils ont besoin de réponses. C'est toute la richesse du parc qui est en jeu, me dit Michel Lafleur, président de la coalition des Amis du parc Jarry, CAP Jarry. Nous, on croit beaucoup à l'importance des parcs urbains. Le parc Jarry est un lieu pour bouger, pour se rencontrer. C'est un lieu de détente, un lieu pour établir un contact avec la nature. Monsieur Lafleur me rappelle que le parc Jarry est l'un des rares espaces verts des environs. Il sert notamment le quartier de Parc Extension, l'un des plus densément peuplés de Montréal. Les gens qui y habitent n'ont souvent pas le luxe d'avoir une cour, ni même un balcon. Or, dit Michel Lafleur, l'Omnium Banque nationale accueille chaque année sans cesse plus de joueurs et de spectateurs. Ça change complètement l'ambiance, dit-il. Il y a beaucoup plus de circulation automobile. Il y a les annonceurs, la musique. Le parc perd de sa valeur comme lieu de détente et le tournoi s'allonge. Il dure maintenant 14 jours. Mais si on prend en compte les jours de montage et de démontage, c'est 48 jours qu'il occupe. Tennis Canada précise que si la durée totale est effectivement de 48 jours, le site est officiellement fermé aux usagers pour une trentaine de jours. Tennis Canada est profondément attaché au parc Jarry, m'écrit Valérie Tétrault, vice-présidente communication et tournois professionnels chez Tennis Canada. Nous y sommes établis depuis plusieurs décennies et nous avons toujours considéré les installations du stade IGA comme faisant partie intégrante de ce grand espace public que nous partageons avec les Montréalaises et les Montréalais. Nous sommes pleinement conscients de notre environnement et nous souhaitons que toute réflexion concernant l'avenir du site se fasse en dialogue avec les groupes de citoyens, dit Valérie Tétrault. Mais voilà, Tennis Canada admet être à l'étroit dans ses installations actuelles. En 2025, l'organisation a dû demander une dérogation à l'Association of Tennis Professionals, ATP, parce que son site ne correspond pas aux standards du circuit. Et il n'y a pas que le tournoi. Nos installations actuelles fonctionnent déjà à pleine capacité pendant une grande partie de l'année, affirme Mme Tétrault. Tennis Canada a donc bel et bien des plans d'expansion. Mais il m'a fallu jouer au chat et à la souris pour me le faire confirmer par la Ville de Montréal. Et ça, ça dénote un manque de transparence. La Ville m'a d'abord fourni une réponse générale sur les enjeux du parc Jarry qui comportait une phrase énigmatique. Sans compter que l'ajout de terrains extérieurs sur le territoire montréalais pourrait, par ailleurs, bonifier l'offre de pratique du tennis à la population, ai-je pu lire. Ah bon? Il y a donc des plans d'ajouter des terrains de tennis extérieurs? En réaction à mes questions, le cabinet de la mairesse Soraya Martinez-Ferrada m'a envoyé une version corrigée de la déclaration où la fameuse phrase avait disparu. Ce passage concernant les terrains extérieurs n'apportait rien au vrai message, a-t-on tenté ensuite de justifier. Bien essayé. La ville a fini par me confirmer qu'elle avait autorisé une demande de subvention par Tennis Canada auprès de Québec pour construire de nouveaux terrains de tennis extérieurs. Ceux-ci seraient aménagés dans la superficie déjà accordée à Tennis Canada. Cette résolution ne constitue ni une approbation du projet, ni un engagement financier de la ville, précise le cabinet de la mairesse qui décrit le tout comme une simple étape administrative. Un autre aspect du même dossier soulève des questions. La ville souhaite déménager la piscine du parc Jarry, actuellement située près du stade IGA, à l'autre bout du parc. Elle affirme que la piscine est désuète et souhaite la réunir avec la pataugeoire pour créer un pôle aquatique. La CAP Jarry déplore le fait que la future piscine ne compterait plus de couloir de 50 mètres, une rareté appréciée des nageurs, mais bien des couloirs de 25 mètres. Les deux plongeoires seraient aussi sacrifiés. Les citoyens de l'organisme estiment qu'il serait plus économique de rénover la piscine actuelle que de la démolir et d'en construire une nouvelle. Ils soupçonnent la Ville de Montréal de vouloir dégager de l'espace au profit de Tennis Canada. La Ville répond ne pas avoir décidé ce qui adviendrait de l'espace dégagé par la piscine actuelle. Un plan directeur, qui date de l'ère de Valérie Plante, existe pour le parc Jarry. Mais force est d'avouer qu'il reste beaucoup de questions en suspens. La méfiance s'est installée parmi les citoyens et il n'y a qu'une façon de la dissiper, faire preuve de clarté et de transparence. C'était une vision claire pour le parc Jarry. Un texte de Philippe Mercure paru le 7 juin 2026 dans La Presse.
Hantavirus, plusieurs cas contacts à faible risque identifiés au Québec. Un texte de Chloé Bourquin, publié le 13 mai 2026 dans La Presse. Plusieurs Québécois sont considérés comme des cas contacts suite à l'éclosion d'hantavirus survenu à bord du navire de croisière MV Ondius. Mais ils ont un faible risque de développer l'infection, insiste la santé publique qui se veut rassurante sur la situation. La santé publique continue de suivre la situation de très près, a affirmé le ministère de la Santé et des Services sociaux, MSSS, dans un communiqué publié à ce sujet. Jusqu'à maintenant, aucun cas d'hantavirus lié à cette éclosion n'a encore été confirmé dans la province, et personne sur le bateau n'était résident du Québec. Mais plusieurs cas contacts à faible risque ont quand même été identifiés dans la province, bien qu'il n'ait pas eu de contact direct ni prolongé avec un cas confirmé, toujours selon le MSSS. Plus précisément, une personne est considérée comme à faible risque de contracter l'infection si elle a été en contact avec une personne à haut risque. Les personnes à haut risque sont, par exemple, celles qui ont pris le même vol qu'un passager mort par la suite après avoir contracté le virus. Ces cas contacts à faible risque devront effectuer une autosurveillance de leurs symptômes pendant 42 jours suivant leur dernière exposition, mais n'ont pas à s'isoler tant qu'ils ne présentent pas de symptômes. À l'inverse, plusieurs cas contacts considérés à haut risque ont dû s'isoler dans d'autres provinces au Canada, comme en Ontario, en Colombie-Britannique et en Alberta. Un suivi est assuré de façon préventive par les directions régionales de santé publique. Par ailleurs, un appel à la vigilance et un avis d'InfoSanté ont été diffusés auprès des professionnels de la santé. Le risque pour la population québécoise demeure très faible, est-il souligné dans le communiqué. C'était Hantavirus, plusieurs cas contacts à faible risque identifiés au Québec. Un texte de Chloé Bourquin publié le 13 mai 2026 dans La Presse.